des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bon, des nouvelles de l'Union européenne.
Oui, l'Union européenne qui... était en pleine réunion et qui vient d'accoucher d'une ébauche de projet parce qu'ils ont des problèmes avec ce qu'ils appellent les arrivées illégales en 2022. C'est des immigrants qui rentrent en Europe et qui essaient de demander un statut de réfugié. Il y en a eu 3300. En 2022, et on sait qu'on est encore en pandémie, on était encore en pandémie en 2022, et ce qu'on voit en Europe, c'est que ce nombre risque d'augmenter considérablement dans les prochaines années, et le problème, c'est que ces immigrants illégaux qui rentrent en Europe, qu'on appelle pudiquement irréguliers, ben ces immigrants n'ont pas les compétences requises pour travailler dans des pays industrialisés. C'est des gens qui sont, par rapport aux Européens, souvent sous-éduqués, qui ne parlent pas la langue du pays, et donc qui posent un problème. Et on s'est rendu compte que même si on les rejetait, ils restaient. Et le taux de retour dans leur pays, donc, de ces immigrants illégaux, est extrêmement faible. Alors, il y a un problème très grave. Et en ce moment, il y a des discussions très sérieuses dans les pays européens pour essayer de retourner ces gens dans leur pays, pour essayer... même de construire des clôtures. Il est question de construire une clôture, par exemple, entre la Bulgarie et la Turquie.
Ouais.
Le Danemark veut faire comme la Grande-Bretagne et envoyer les demandeurs d'asile, imagine, les demandeurs d'asile au Rwanda. Parce qu'encore une fois, quand on refuse, le droit d'être réfugié, il reste dans le pays malgré tout. Le problème, c'est qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui ont un besoin énorme de main-d'œuvre. L'Allemagne qui a une natalité extrêmement faible depuis des années et qui, elle, voudrait avoir des gens. Mais attention, l'Allemagne dit, nous, on a besoin quand même de travailleurs éduqués. Et où est-ce qu'ils sont, ces travailleurs éduqués? Ben, on les trouve plus en Afrique du Nord que ailleurs dans l'Afrique, par exemple.
Mmh.
Et ils voudraient sélectionner. Alors, tu vois le problème immense auquel ils font face, qui est le même problème que celui auquel nous faisons face. Et M. Saint-Pierre Plamondon, il faisait référence hier avec le chemin Roxham, c'est que les gens qui rentrent ici, par ce chemin-là, bien souvent, dans la très grande majorité des cas, ne sont pas des gens qualifiés pour travailler. Et ils créent des tensions, ils créent des problèmes parce que ils vont dans les refuges, c'est eux qui si tu veux, sont dans les demandes de l'aide aux organisations communautaires, ils cherchent des logements très très bon marché, mais c'est des gens qui finalement font la concurrence aux gens les plus mal pris dans notre société, et ils leur font une concurrence déloyale.
Mmh.
Et en fait, ils se trouvent à épuiser petit à petit les ressources de notre société. On peut pas recevoir des gens comme ça qui ne vont pas participer à l'économie du Québec ou du Canada de leur vie.
Ça se règle pas, le chemin Roxham. Hein? C'est comme,
ça se règle pas.
On en parle, puis Trudeau s'en contrefiche. Il se contrefiche de tout le monde. Lui, le chemin Roxham est ouvert, va rester ouvert, puis le Québec va ramasser sa merde.
C'est un esprit de curé, ça. Tu sais, tout le monde, on va donner de l'argent à tout le monde. Oui, mais c'est pas son argent. Oui, mais c'est pas grave, on va accueillir tout le monde. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui manquent de logement.
Ben
il
n'y
a pas que ça qui fait qu'on manque de logement. Il y a aussi les Airbnb, je suis tout à fait d'accord, mais ça participe au problème, puis on voit que c'est un problème qui va augmenter, qui augmente en Europe, qui augmente aux États-Unis. Aux États-Unis, 3 millions, puis ces immigrants illégaux viennent de découvrir le Canada, où il y a un système de santé qui est complètement gratuit, puis on les soigne quand même s'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ça nous coûte cher, tout ça. Puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça enlève des ressources aux autres. C'est pas des immigrants qui arrivent avec de belles qualifications, tu sais, avec l'intention de se refaire une vie, puis qui sont capables de participer à la société. Ça, il y en a, et qui en plus ont fait la queue, qui ont rempli des demandes, qui ont rempli, tu sais, c'est pas drôle là, d'attendre des formulaires, etc. Qui sont passés à travers tout le chemin de croix pour devenir ici des vrais immigrants. Ben, eux, ils passent devant tout le monde. Ils passent devant tout le monde et ils n'auraient jamais été acceptés, ces gens-là, normalement. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on cesse d'avoir cette pitié pour les réfugiés de cette sorte-là. Ça ne marche pas. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde sans nous-mêmes tomber dans la misère.
Non, mais tu sais, occupons-nous des immigrants qui débarquent ici, qui suivent les règles, puis on va les aider.
Occupons-nous de nos pauvres aussi, ici. Il y en a plein. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Il serait temps que quelqu'un ramasse tout ce que Trudeau a fait depuis 2015 et voit les conséquences de toutes ces décisions.
Ah, mais il ne voit pas. C'est un gosse de riche. C'est un gars qui a toujours eu... Tu sais, il est né avec la cuillère d'argent dans la bouche. Il n'a jamais eu de problème d'argent de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est que de se trouver un boulot. Il a eu son boulot de premier ministre à cause de son père. Il n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre dans la vraie vie. Et donc, c'est un gars qui... Je répète, c'est un bon gars. Il n'est pas méchant. Mais il n'a aucune idée de ce que c'est que de travailler. Il n'a aucune idée de ce que c'est que d'aller cogner à une porte pour demander un logement, aller voir des propriétaires. Il ne sait pas ce que c'est que d'aller voir un employeur pour lui dire j'ai besoin d'une job. Il ne sait pas ce que c'est cette pression-là. Il ne sait pas ce que c'est que d'aller au marché. Puis moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, à une période de ma vie, d'aller au marché puis de te dire, ben ça, je peux pas me l'acheter, puis ça non plus, puis ça non plus, parce que j'ai pas assez d'argent. De compter tes sous, puis te dire à la fin du mois, comment je vais faire pour payer mon loyer. Lui, il sait pas ce que c'est que ça.
Donc, c'est un prof de théâtre.
Il est décroché complètement du monde là-dessus, et s'il l'était le moindrement, il ferait attention aux Québécois, aux Canadiens, qui sont pauvres, qui ont pas d'argent, et qui subissent maintenant cette compétition de ces gens à qui il a ouvert la porte.
Non, mais il continue de s'assurer d'être là pour tous les... De la bullshit. C'est le premier ministre de la bullshit. C'est Justin Trudeau. On le sait, on le connaît, puis les gens votent encore pour lui, Loïc. Qu'est-ce que tu veux faire?
Parce que l'alternative est pas fameuse.
Peut-être. Parle-nous du port de Beyrouth.
Ben, au port de Beyrouth, ça devient une comédie, mais tragique. Tu te souviendras, c'est le 4 août 2020, il y a eu cette explosion épouvantable de nitrate d'ammonium, des centaines de tonnes qui étaient entreposées là depuis des années, depuis 7 ans. Il y a eu 220 morts, 6500 blessés, une grande partie de la ville de Beyrouth détruite. Et donc, il y a une enquête. Une enquête qui fonctionne pas, qui était paralysée depuis 13 mois. Pourquoi? Parce que qui s'occupe du port? Ben, c'est des gens du Hezbollah. Puis le Hezbollah fait un peu ce qu'il veut à l'intérieur. Le Hezbollah, c'est la branche armée de l'Iran à l'intérieur du Liban. Alors, le Hezbollah fait un peu ce qu'il veut. Puis il y a beaucoup de politiciens qui étaient corrompus, qui ont laissé tout ce nitrate d'ammonium-là sans problème. Alors, il y a un juge d'instruction qui, lui, est un gars qui est honnête, qui s'appelle Tarek Bitar, qui, le 23 janvier dernier, et son enquête était bloquée depuis 13 mois, a dit, bon, ça suffit comme ça. Malgré les blocages politiques, il a convoqué en audience, à partir du 6 février, plusieurs personnalités politiques et sécuritaires, des ex-ministres, un ex-premier ministre, etc. Et surtout, il a lancé une poursuite contre le procureur général du Liban, Ghassan Ovediat, parce que ce gars-là, figure-toi qu'il avait présidé en 2019 une enquête sur le port de Beyrouth, sur le bâtiment qui a explosé, et tout allait bien, pour lui, il n'y avait pas de problème, oui, mais il y avait de la parenté, n'est-ce pas, qui s'occupait du port, donc il était en fait corrompu, fort probablement lui-même. Et donc, il a lancé une poursuite contre ce procureur général. En réponse, le procureur général a lancé une poursuite contre le juge Bitar, en disant vous rebellez contre la justice, il l'accusait d'usurpation de pouvoir, Et il a ordonné, en plus, ce procureur, la libération de 17 personnes qui avaient été arrêtées par Bitard et qui étaient en attente de procès. Ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire. Et c'est ce que Bitard a dit. Il a dit, vous n'aviez pas le droit de libérer ces gens et vous n'avez pas le droit non plus de m'accuser comme ça. Alors, les familles au Liban sont vraiment du côté de Bitard et sont à peu près, et sont très outrées de ce qui se passe, et Bitard risque d'être révoqué à cause de ce qui arrive. Alors il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, le système de justice au Liban, on s'en doutait, est corrompu, ne fonctionne pas. La seule chance que peuvent avoir les Libanais, c'est d'avoir ben, peut-être des gens de l'ONU qui s'occupent de ça, mais d'avoir boy. Une commission de l'ONU. Mais alors là, quand t'es rendu là, ben, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est désespéré, là, quand t'es rendu là.
Je comprends.
Alors voilà, malheureusement, ça se règle pas. Ouais. Ça te montre simplement combien ce système est corrompu. C'est une situation qui est vraiment regrettable. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui sont honnêtes au Liban, mais il y a trop de gens malhonnêtes qui, maintenant, sont au pouvoir encore au Liban.
Bon, et avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur ce nouvel espion chinois.
Oui, un nouvel espion chinois qui a été en fait condamné par les États-Unis. C'est Monsieur Ji Xiaoqun, qui a 31 ans, qui est ingénieur. C'est quelqu'un qui était arrivé aux États-Unis il y a 10 ans avec un visa d'étudiant, qui travaillait pour, en réalité pour une agence chinoise de renseignement. Il était ingénieur. Il s'était, figure-toi, enrôlé avec l'armée américaine de réserve. Il a menti évidemment au recruteur. Il s'est fait pincer parce qu'il y a un gars des services de renseignement américains qui s'est fait passer pour un représentant des services secrets chinois et donc il s'est fait pincer comme ça. C'était en fait quelqu'un qui travaillait évidemment pour les services de renseignement américains et on a vu ce qu'il voulait faire et donc il vient d'être condamné à 8 ans de prison pour tentative de vol de secrets aéronautiques parce qu'il travaillait dans le domaine de l'aéronautique et il promettait de donner aux Chinois donc toutes sortes de secrets.
Ben, Hydro-Québec va l'engager.
ça se pourrait. Il va falloir qu'ils attendent 8 ans, par exemple.
OK. Bon, on se laisse là-dessus, Loïc, puis on se reparle demain.
Ça marche, salut. Mm-hmm.